Mehdi Ahin, Karima, Matin Famille.
Et nous sommes en direct avec le docteur Atman Lourabi, psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique, pour parler aujourd'hui de déréalisation. Docteur Atman Lourabi, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Matin Famille aujourd'hui.
Bonjour Karima, c'est toujours un plaisir partagé.
Merci beaucoup. Alors docteur, on va commencer peut-être par une petite définition. Comme d'habitude, quand on parle de déréalisation, ça veut dire quoi au juste ?
Alors, la déréalisation se définit par une perception de la réalité et de l'environnement qui nous entoure comme étant quelque chose d'étrange, mais sans qu'on perde contact avec la réalité. C'est-à-dire, on se rend bien compte que c'est étrange, c'est pas la réalité qui est altérée. Mmh. Et donc, de telle sorte que, voilà, on a un peu l'impression d'être dans un film ou d'être face à, je dirais, une scène qui est en train de se produire sans en faire réellement partie. Bon, ça pourrait être l'une des facettes de la déréalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce terme déréalisation, enfin, ou ce trouble, est souvent lié aussi à ce qu'on appelle la dépersonnalisation, qui est aussi une anomalie au niveau de la perception, mais c'est plutôt, si vous voulez, l'expérience subjective de l'individu comme faisant partie de lui-même qui est altérée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut avoir l'impression qu'on sort de son corps. On peut avoir l'impression de s'observer de l'extérieur. On peut avoir l'impression que notre corps n'est pas le nôtre. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de, je dirais, l'aspect clinique qui relève de cet aspect de dépersonnalisation. Et c'est quelque chose de très troublant quand ça arrive, hein, en règle générale. Cette dépersonnalisation / déréalisation, en fait, elles ont tendance à se produire principalement lors d'événements traumatiques. Hein, parce que, si vous voulez, toujours dans le cadre de la définition, quand on parle de dépersonnalisation, déréalisation, on va trouver ça dans la famille des troubles dissociatifs. D'accord. Et là, on va parler plutôt de dissociation, c'est-à-dire un état où la conscience est suspendue / altérée, mais c'est pas une perte de conscience. Donc c'est ça un petit peu grosso modo l'aspect que je peux vous proposer pour essayer d'écrire le trouble dissociatif. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très 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 souvent, justement autour de traumatologie au sens strict du terme, des décès violents, le fait d'être témoin de ce genre de choses, ou quelquefois même ce sont des chocs émotionnels mais qui sont vécus avec une intensité traumatique, notamment chez l'enfant, on y reviendra un tout petit peu plus tard, et c'est ça en fait qui va créer de manière ponctuelle ou régulière des accès de dépersonnalisation, des réalisations, tout en sachant qu'en termes de cause, quand on parle de causalité ou de diagnostic principal, le plus souvent, ces phénomènes vont aussi se produire, toujours d'un point de vue psychiatrique, ben, quand par exemple il va y avoir une consommation de substances psychoactives, des drogues, qui ont tendance à donner ces anomalies de l'éprouver de la réalité, hein, notamment les hallucinogènes, etc. On va retrouver également les troubles anxieux. Notamment le trouble panique. Les gens qui ont un trouble panique et qui font régulièrement des attaques de panique, il y a une proportion non négligeable qui éprouve cette dépersonnalisation des réalisations. Mais tous les troubles anxieux aussi peuvent la causer. Il y a aussi, et ça c'est très important, la dépression. La dépression qui peut être un peu masquée, entre guillemets, par cette plainte, parce que c'est très gênant. Quand la personne l'a décrit, c'est vraiment quelque chose de profondément angoissant en soi, mais qui est dans un cercle vicieux parce que ça se nourrit justement de l'angoisse et ainsi de suite. Donc, ce sont ça les causes les plus souvent rencontrées en psychiatrie. Mais ce qu'il convient de dire, c'est que toute sensation de, par exemple, déréalisation ne correspond pas forcément à une maladie. L'exemple que je peux vous proposer, c'est justement avec le développement du cinéma, etc., quand on est dans une expérience extrêmement immersive, en trois dimensions, etc., dans un monde très différent, quelquefois, et ça a été décrit pour de grands films récemment, hein, justement, il y a eu des articles même qui sont parus, où justement il y avait une espèce de déréalisation après, et puis les gens, bon, petit à petit, en reprenant contact avec la réalité, éprouvaient un dégoût de la réalité. Donc ça, c'était juste pour dire que c'est quelque chose de normal quand on a été au cinéma, quand on, tiens, autre chose de beaucoup plus récent, quand on utilise les casques de réalité virtuelle.
Ouais.
Alors ça, c'est très important parce que beaucoup de gens le décrivent. C'est que, ben justement, c'est tellement immersif que au moins pendant quelques minutes, au moment où on va arrêter de jouer, on va vivre la déréalisation.
Ouais. Hein,
c'est-à-dire qu'on aura l'impression de la fausseté ou de l'étrangeté de ce qui nous entoure. Et puis, donc ça, c'est dans le cadre où c'est plutôt normal. Et il faut savoir aussi qu'il y a des éléments médicaux qu'il ne faut pas négliger, parce que quelquefois, alors cette dépersonnalisation, ou plutôt cette déréalisation, peut précéder ou succéder à une crise convulsive. Donc ça, c'est important, voilà, surtout s'il y a une perte de connaissance ou une suspension de la conscience, etc., de absolument privilégier la neurologie, parce que peut-être que c'est une épilepsie particulière qui peut se manifester avec ce genre de symptômes avant et après les crises. Et il y a aussi, bien sûr, tout un tas d'autres situations, je dirais, médicales, comme le simple fait d'avoir une fièvre assez élevée.
Donc
oui, les gens peuvent éprouver cette déréalisation, cette dépersonnalisation, et ainsi de suite.
Et là, justement, ça arrive justement aux enfants, des fois, quand ils ont de la fièvre, cette sensation de déréalisation.
Absolument, mais les enfants comme les adultes.
Ouais.
Hein, donc, peut-être que l'enfant aura tendance à moins le verbaliser, à moins l'exprimer précisément et correctement. Mais en tout cas, même chez les adultes, il y a tout un tas d'anomalies, je dirais, de perceptions qu'on peut éprouver justement quand on est sujet à des fièvres plus ou moins élevées.
Et docteur, quand est-ce qu'on devrait s'inquiéter, justement, les signes qui devraient nous alarmer, quand c'est pas juste occasionnel, comme on vient d'en parler, mais que c'est, voilà, peut-être répétitif, je sais pas.
Alors, comme je vous disais, c'est une anomalie au niveau de l'expérience subjective, c'est ça, une perception, on ne peut pas trop la mesurer, etc. Mais ce qui est important, c'est plutôt l'impact, parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre des sensations de déréalisation sans que cela procure chez eux une anxiété supplémentaire. D'accord. Le plus souvent, les gens sont quand même extrêmement anxieux à l'idée d'éprouver ce genre d'anomalie. On commence à avoir une espèce d'anxiété au moins dirigée sur la santé, ce qu'on appelle l'hypochondrie. On va aller chercher sur Internet. On va voir que la déréalisation, ben quelquefois, ça peut être, enfin, ou plutôt, c'est classiquement, c'était lié quasi exclusivement à la schizophrénie. Donc on a accès à des informations totalement fausses, et c'est quelque chose qui va augmenter notre anxiété et notre souffrance au jour le jour, qui va avoir un impact. Et c'est là que se définit le trouble, c'est dès lors qu'il y a un impact significatif sur la vie familiale, la vie personnelle, la vie professionnelle. Et là, justement, le plus souvent, on retrouve des comorbidités psychiatriques, au moins un trouble anxieux, et très très souvent un trouble dépressif caractérisé, et ce qu'il convient de prendre en charge, justement.
Et en parlant de prise en charge, docteur Atmal Lorabi, qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment est-ce qu'on traite ce trouble?
Alors, très très souvent, cela s'appuie sur la thérapeutique médicamenteuse, aussi un peu la psychothérapie. La psychothérapie qui va viser justement un petit peu, peut-être désamorcer le lien très étroit qu'il y a entre cette perception et le fait de se sentir en danger, c'est-à-dire l'anxiété supplémentaire. Parce que déjà, si on arrive juste à diminuer la réaction anxieuse face à cette sensation, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'améliorent. Ça, c'est côté psychothérapie. Il faut travailler sur ça intellectuellement et comportementalement. Mais aussi sur le plan du traitement, je le disais, c'est très souvent, ces phénomènes sont très, très souvent liés à des troubles anxieux quand même qui sont relativement sévères à ce moment-là, quand il y a justement la déréalisation. Ça signe presque toujours la sévérité et ou la chronicité d'un trouble anxieux, et puis la dépression, qui, je le rappelle, peut survenir à plusieurs reprises en complication d'un trouble anxieux. Ça, c'est une articulation qui est très connue. C'est-à-dire que quand on a un trouble anxieux de base, eh ben, on est probablement plus à risque de développer une dépression qui va émailler l'évolution de notre maladie. Le problème, c'est que c'est souvent impactant de manière péjorative. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire soigner correctement. Mais en règle générale, cette déréalisation, quand elle donne cette détresse, les gens sont juste à la recherche déjà d'un diagnostic porté, d'être rassurés. Et assez souvent, ben, déjà, ça va mieux. Et puis, ben, quand il faut un traitement, et il ne faut pas hésiter, bien sûr, en tenant en compte les spécificités de chacun et que, bien sûr, les règles de la prescription médicale. Et à ce moment-là, tout se passe mieux en général.
Ben, merci beaucoup, Dr Atman Lorabi, de nous avoir éclairé à ce sujet. On se retrouve mardi prochain.
Moi, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Inch'Allah,
bonne journée. Ciao, ciao.
Au revoir.